Pourquoi donc l'homme souffre-t-il si cruellement? Demanda Myriam. Parce que lorsque l'homme est engendré, quand la vie prend forme dans la semence, elle revêt la condition humaine qui la sépare de tout autre individu dans le monde. Afin de la rendre unique, de l'isoler, séparée de tout autre, solitaire, personnel, sa propre personne, elle devient sujette à, elle est contrôlée par, deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre qui attachent l'homme à toutes les choses qu'il désire et l'incite à rejeter et repousser tout ce dont il ne veut pas. Ces deux impulsions fondamentales de l'homme sont sous-jacentes à tout ce qu'il fait au cours de sa vie et sont entièrement responsables des maux qu'il se crée lui-même. Bien que le Père soit actif en l'homme, il n'a rien de cette condition humaine. Par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que fait l'homme, que l'homme appelle des péchés, n'est que de ce monde et n'est puni qu'à l'intérieur de ce monde. Car c'est une loi de l'existence terrestre, comme vous le savez, que ce que vous semez, vous le récoltez. Parce qu'il puise la vie et l'esprit dans le Père, l'homme est lui-même un créateur, en pensée, en parole et en acte. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit, lui revient sous une forme semblable un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père. Quels que soient les maux de l'humanité, elle se les crée elle-même entièrement. Les gens se dirent tout bas que c'était là un tout nouvel enseignement qui, pourtant, avait plus de sens que tout ce qu'on leur avait dit jusque-là. Quelques voix me pressèrent d'en dire davantage. Je vous le dis, en moi, vous voyez la vie active sous sa forme de guérison. Suivez-moi et vous entendrez ce que je dis du sentier qu'il faut emprunter pour trouver le bonheur. C'est dans mes paroles que vous trouverez la vérité de l'existence qui ne vous a jamais été révélée par aucun autre homme. Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis, en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement, en saisissez le sens, en pratiquez la vérité et vous en tenez strictement à leur loi, vous vivrez une véritable renaissance et entrerez dans le royaume des cieux. » Après que j'eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment. Puis il s'éleva un bruit de conversation excité, mais Zédéchia se leva et dit qu'il était temps pour la maisonnée d'aller se reposer. Son fils avait besoin de sommeil, ainsi que sa femme et ses filles, fatiguées d'avoir tant pleuré. Il fut convenu que le lendemain matin, je descendrais vers le port et que l'on m'amènerait les malades. C'est ainsi que je pus lancer ma mission et que tout se mit rapidement en place de la meilleure façon possible. Il semblait que si je ne les guérissais pas, les gens ne s'intéresseraient pas à tout ce que j'avais à leur dire et l'accepteraient encore moins. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner et mes enseignements expliqueraient pourquoi je pouvais leur apporter la guérison du Père. Lorsque je m'éveillais le matin suivant, je me sentis plein de vie et tout joyeux à la perspective des choses merveilleuses à venir. Après avoir déjeuné, je sortis avec Zédéchia pour me rendre au port, le cœur brûlant d'amour pour tous ceux que je croisais. Je les saluai chaleureusement, disant que j'avais de bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient bien les entendre. Lorsque j'atteignis la jetée, je vis des hommes, des femmes et des enfants assis par terre, attendant mon arrivée. Quelques-uns tendaient les mains vers moi, m'implorant. Ceux-là avaient l'air très malades. Certains étaient estropiés, beaucoup d'autres couverts de plaies. Mon cœur souffrait toujours de leur état pitoyable, mais maintenant, je me réjouissais aussi parce que je savais que leur triste état n'était pas la volonté du Père. Au contraire, le Père était lui-même guérison, santé, bien-être. Je l'avais prouvé la nuit précédente, ainsi que chez moi. J'exultais à l'idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité à la foule qui se rassemblait maintenant autour de moi. un visage vieux et triste attira mon attention. Il s'agissait d'une femme toute ridée, mince et voûtée. Je m'approchai, m'agenouillai près d'elle et imposai les mains sur sa tête. Je sentis immédiatement le flux de la puissance père passer par mes mains, vibrer à travers sa tête jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué par la force de vie qui remplissait ses membres d'énergie. Les gens qui observaient la scène s'étonnèrent, se demandant ce que je pouvais bien lui faire, mais d'autres calmèrent leurs craintes. Petit à petit, les membres de la vieille femme s'étirèrent, s'allongèrent, se redressèrent. Son visage retrouva la vie et exprima la joie de la force retrouvée. Je l'aidai à se lever, puis elle se tint fièrement debout toute seule. Elle était tellement submergée par le bonheur qu'elle se mit à pleurer, à rire et à danser, s'adressant aux gens en criant « Dieu soit loué, Dieu soit loué !» Tous ceux qui assistaient à la scène reprirent le refrain. Ils étaient profondément émus par ce qu'ils venaient de voir. La cohue des gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zedekia m'offrit de contenir la foule. De façon ordonnée, assisté de deux autres spectateurs empressés, il dirigea les malades vers moi afin que je réponde à leurs besoins le plus urgent. Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m'invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ceux que je n'avais pu guérir par manque de temps. Il leur assura que je reviendrai le jour suivant. Ce fut une soirée de fête. Tant de choses à raconter, à célébrer, tant à enseigner, à apprendre. Tout le monde, assurément, s'accordait pour dire qu'il n'y avait que des bonnes nouvelles. Je savais que beaucoup de gens croyaient que je disais vrai au sujet de ce que j'avais vu dans le désert. Et cela continua ainsi de nombreux jours encore. Les gens venaient me voir de loin. Zedekia et d'autres amis à lui m'aidèrent à ordonner les foules afin que je puisse guérir et enseigner. Les gens écoutaient avec joie. Ils parlaient entre eux du Père et désiraient en apprendre davantage au sujet des chaînes et des cordes liant les gens à la misère. La cohue devint si intense que je compris rapidement qu'il fallait que je trouve mes propres aides, sur qui je pourrais compter pour m'assister. Il était temps que Zedekia retourne diriger son entreprise de cuir qu'il avait négligée. Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix de disciples. Lorsque j'eus acquis la conviction que je serais guidé quant à ce choix, je revins à Capharnaüm. Je me sentis fortement poussé à descendre sur le quai, parler à quelques hommes que j'avais vus écouter attentivement mes enseignements. La question était de savoir s'ils allaient abandonner leur filet de pêche pour me rejoindre. Mais lorsque je les appelai, Simon, André, Jacques et Jean vinrent immédiatement, heureux de m'aider dans mon œuvre de guérison et d'enseignement. D'autres nous rejoignirent aussi, et c'est ainsi que je commençai mon travail parmi les foules. Je quittai la maison de mon hôte, Zedekia, avec la chaleureuse assurance que je pourrais y retourner quand je le voudrais. Ainsi, j'initiai ma mission d'enseignant et de guérisseur, traversant villes et villages pour me rendre partout où ma présence était nécessaire. Avant de commencer ce périple, toutefois, je rassemblai les jeunes gens qui avaient accepté avec joie de m'aider. En écoutant mes enseignements, je savais qu'ils s'émerveilleraient des révélations que je leur ferais. Il était capital que je leur explique d'abord les circonstances dans lesquelles j'avais vécu tout ce qui m'avait été révélé dans le désert. Je leur racontai qu'en dépit de la vie oisive que je menais jadis, j'avais toujours éprouvé une profonde compassion pour les gens. C'était elle qui m'avait poussé à me détourner du dieu des rabbins. Lorsque j'exprimai mon rejet total d'un Jéhovah vengeur, je vis le choc, puis le doute apparaître sur leur visage. Je leur expliquai longuement que j'avais demandé comment il était possible de parler d'un dieu bon alors que des enfants innocents enduraient tant de souffrances. Pendant que je parlais, leur visage se détendait progressivement. Je parlais de mes doutes passés et de ma colère jusqu'à ce que je puisse voir leur expression se changer en acceptation, puis manifester l'accord total. je vis que je les avais renvoyés aux doutes et questions qui les habitaient déjà, mais qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en paroles. Pendant que nous parlions ensemble, je sentis leur soulagement de ne plus être seul dans leur révolte secrète vis-à-vis des enseignements des rabbins. Je leur dis qu'il était venu un moment où j'avais réalisé encore plus clairement que je gâchais ma vie. Je voulais changer et me sentais impérieusement poussé à me rendre auprès de Jean-Baptiste pour commencer, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Je décrivis ce que j'avais vécu au moment du baptême, puis pendant les 6 semaines passées dans le désert. J'expliquai que ma conscience était purifiée progressivement de toutes mes anciennes pensées, croyances, comportements, de mon arrogance et ma rébellion, pendant que je vivais les profondes révélations et visions me montrant la réalité que j'appelais maintenant le Père. J'expliquai la nature du Père et précisai que cette nature divine constituait également la volonté divine. Je leur dis que l'homme, suite à ses erreurs de pensée et de comportement, s'était lui-même fermé au Père en lui. Que l'homme seul, d'abord par le repentir, puis par une purification mentale émotionnelle, trouverait son chemin de retour vers une communication totale avec le Père. Lorsque tout cela s'accomplirait, toute la nature du Père se libérerait dans l'esprit, le cœur, le corps, l'âme et la vie de la personne, dans son environnement et ses expériences. Alors, cette personne entrerait dans le royaume des cieux, gouvernée par le Père, et le royaume des cieux s'installerait dans la conscience de la personne qui aurait ainsi atteint le but de son existence. Tandis que je parlais à mes disciples, je vis leur réaction se refléter sur leur visage. Tout doute avait disparu, et ils affichaient maintenant une lumière naissante de compréhension et de joie. Ces jeunes gens devinrent des croyants enthousiastes et s'exclamèrent « C'est vraiment une bonne nouvelle !» Cependant, après leur première acceptation de tout ce que j'avais dit, il arriva parfois qu'ils se demandent si tout ce que je disais pouvait être vrai. Je les comprenais. Pour être prêt à se débarrasser de l'image de Jéhovah si profondément ancrée dans leur esprit, il fallait une bonne dose de courage. Il y eut des moments où ils tinrent des conciliabules, se demandant qui était cet homme qui revendiquait de telles merveilles. S'il se joignait à moi et qu'il advienne que je sois réellement un messager de Satan, que se passerait-il alors? Ils seraient sévèrement punis par Jéhovah. Ils avaient beaucoup à perdre. Leur réputation de jeunes gens sobres et travailleurs, leur statut social de commerçants et d'artisans, leurs revenus, et il leur faudrait affronter le plus gros des obstacles, la colère et le rejet probable de leur famille. Et que recevraient-ils en retour? Je leur dis que je ne pouvais leur promettre aucune récompense terrestre s'ils m'aidaient à répandre l'évangile de la bonne nouvelle. Je ne doutais absolument pas que partout où nous irions, nous recevrions le gîte et le couvert et serions bien accueillis. Je ne pouvais que leur promettre la vérité. Le Père connaissait leurs besoins, y répondrait et les garderait en bonne santé. Je pouvais aussi leur promettre qu'en se tournant vers le Père et en lui faisant confiance en toutes choses et en toutes circonstances, ils seraient heureux comme ils ne l'avaient jamais été. Ils expérimenteraient eux-mêmes le royaume des cieux s'ils rejetaient les exigences de leur ego et se mettaient au service d'autrui. Ils seraient témoins des guérisons, celles-ci fortifieraient leur foi et les aideraient à braver toutes les difficultés de l'aventure. Et c'est ainsi que nous commençâmes notre mission de répandre la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. J'envoyai mes jeunes disciples me devancer dans les villes où nous devions nous rendre. En arrivant, ils disaient aux gens de se rassembler pour entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les gens, étonnés, voulaient en apprendre davantage. Mais les disciples les pressaient d'aller chercher leurs amis et voisins, on leur dirait de quoi il s'agissait lorsque Jésus arriverait et il y aurait des guérisons de leurs malades. Tout excités, beaucoup couraient aider à répandre la bonne nouvelle et rapidement, les gens se rassemblaient en une foule immense. Moi qui étais révolté avec tant de force et d'ardeur contre les homélies religieuses moralisatrices menaçant les pécheurs de pénitence, de châtiment, de damnation, je marchais maintenant joyeusement à la rencontre des foules. J'avais ma bonne nouvelle à leur transmettre pour illuminer leur journée et la guérison des maladies et afflictions pour réjouir leur vie. Là où, autrefois, je me mêlais aux gens de manière égocentrique et les mains vides, profitant de leur gentillesse et parfois de leur générosité avec peu de gratitude, je venais maintenant avec une abondance de possibilités vivifiantes pour tous ceux qui écouteraient mes paroles. Vous, lecteurs qui lisez ces pages, comprenez bien, je vous prie, ma position à cette époque-là, mon état de conscience après mon illumination dans le désert et le personnage de Jésus que je présentais à mes contemporains. Il s'est dit tant de choses à mon sujet que je me dois de vous présenter la vérité. Dès ma naissance, j'étais destiné à avoir, à l'âge adulte, une excellente condition physique, des traits fins et bien dessinés, un intellect remarquable, l'amour du rire et de la mimique. Mais comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, je me désintéressais de mes aptitudes terrestres. Lorsque je me rendis dans le désert, mon visage et mes manières étaient, comme vous diriez aujourd'hui, atrophiés au vu de ce qu'ils auraient dû être. Pendant que je m'examinais moi-même et me rebellais contre ce que j'étais devenu, mon intellect souffrait lui aussi d'avoir été aussi mal exploité, constamment engagé dans des disputes, des controverses religieuses où je discourais avec désinvolture. Je faisais rire les gens. Les hommes et les femmes que je côtoyais m'aimaient sans me respecter vraiment. D'où l'étonnement de ceux qui me connaissaient lorsque je leur avais parlé dans la synagogue à Nazareth. Pendant que ma mère me soignait pour me redonner des forces, j'utilisais puissamment la connaissance et l'illumination que j'avais reçue dans le désert. Cela revigora l'homme que j'étais destiné à être. Lorsque je commençais ma mission, j'étais parfaitement conscient d'être le seul à posséder la connaissance suprême des secrets de la création et de l'existence elle-même. Par conséquent, je pouvais dire en toute certitude, personne d'autre que moi n'a vu le Père. Je savais que tout ce que les hommes croyaient de tout leur cœur était faux, irréel. Je savais que j'avais été spécialement modelé et conçu par le Père pour cette mission. J'avais été largement doté d'énergie physique, d'éloquence dans le discours, de fertilité en imagination pour improviser de sages paraboles qui transmettraient mes messages sous une forme pouvant se graver dans les mémoires. Qui plus est, après de longues années passées en compagnie des gens du peuple, je les connaissais suffisamment bien pour deviner leurs espoirs les plus fous, leurs craintes les plus fortes, savoir ce qui les faisait rire, ce qui, chez les riches et les prétentieux, suscitait leurs moqueries et colibées. Je savais aussi combien ils étaient nombreux, jeunes et vieux confondus, à souffrir courageusement, en silence. Je savais tout cela. J'éprouvais une profonde compassion pour le peuple qui vivait dans la crainte ou subissait les coups de fouet verbaux des pharisiens éployés sous les lois fiscales des Romains. Je savais combien leur fier esprit juif se sentait humilié par les païens, peuple vainqueur qu'il fallait honorer des lèvres, des mains, qui exigeaient des prosternations, mais que tous méprisaient derrière les portes closes. Je connaissais et comprenais parfaitement la vie et les pensées des gens du peuple. Autrefois, j'avais pensé ce qu'ils pensaient, ressenti leur rancune, souffert de la même anxiété dans les périodes de manque, de la même impuissance sous le joug de la domination romaine. Je savais maintenant qu'aucune de ces souffrances n'était vraiment nécessaire. Connaissant comme je connaissais la réalité de l'existence, la réalité du Dieu universel, je pouvais clairement percevoir la folie des autorités juives qui imposaient au peuple une vie écrasante, complètement fausse et en totale contradiction avec la vérité d'être. Cette situation me mettait très en colère. Je savais être parfaitement façonné et aiguisé pour devenir un instrument purifié de l'action divine en Palestine, mû par ma passion pour la vérité, ma passion pour mes frères humains. C'est pourquoi je me nommais le Fils de l'homme, parce que je savais exactement ce à quoi l'humanité était confrontée dans sa vie quotidienne. J'avais aussi pleine et entière confiance en mon pouvoir d'atteindre mes objectifs, apporter la vérité aux gens et contribuer ainsi à améliorer leur qualité de vie. Je savais pertinemment, dès le début de ma mission, qu'il y aurait un prix à payer pour ce que je me proposais de faire, révolutionner le monde juif connu. J'étais préparé à affronter cela, à en passer par là. Je ne pouvais m'y soustraire parce que j'aimais les gens d'un amour père qui s'écoulait à travers mon cœur et mon être. Car l'amour père est l'essence du don. Il se donne lui-même dans l'être visible, dans l'existence visible, la croissance, la protection, la nourriture, la guérison et la satisfaction de tous les besoins de toute création rendue visible. Je savais que j'étais le don du Père au peuple, au monde, pour son salut. Non le salut par la punition qu'inflige un Dieu courroucé aux pécheurs, contrairement à ce que les Juifs supposaient et soutenaient depuis des siècles, mais je venais sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs, nées d'une pensée erronée. Cette pensée erronée créait leurs maux, leur pauvreté, leur maladie, et leur misère. Parce que j'aimais aussi profondément la race humaine, j'étais prêt à enseigner et à guérir au mépris des prêtres juifs. J'étais prêt à mourir sur la croix pour ce que j'avais vraiment vu dans le désert, ce que je savais de tout mon être et voulais transmettre, dussé-je m'y employer jusqu'au bout de mes forces. Voilà la vérité derrière ma crucifixion. Tout ce que vous avez entendu d'autre est pure invention et vient de la tradition juive consistant à brûler des offrandes dans le temple.